C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France, en compagnie ce soir d'un des plus grands spécialistes de la voix, le phoniatre Jean Abitbol, qui vient de publier « Voix de femme » chez Odile Jacob. À 19h20, au téléphone sonne question sur la place des femmes dans le sport en général et dans le foot en particulier, à moins de 2 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Parc des Princes. Vos questions au 01 45 24 7000, le standard est déjà ouvert, il attend vos appels. Mais d'abord le journal de 18h, bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Ce sont les anges gardiens des mers. 3 bénévoles de la SNSM sont morts aujourd'hui, leur bateau a chaviré au Sable d'Olonne, victime de la tempête Miguel qui a frappé de plein fouet la côte atlantique. Les plus démunis, victimes d'une escroquerie à la viande hachée, la répression des fraudes vient de découvrir des steaks bourrés de gras, d'amidon et de soja, mais de très peu de viande dans des lots envoyés à des associations comme les Restos du Cœur ou les banques alimentaires. Du foot donc, le mondial féminin débute ce soir. On se demandera quelles sont les chances de nos bleus. Nous irons également à Roland-Garros. Nadal s'est qualifié pour sa 12e finale face à Federer. Pour son adversaire, il faut composer avec la pluie, la météo, justement la tempête Miguel. Ce sera à la fin de ce journal.
Leur mission est de sauver des vies en mer.
Mais aujourd'hui, 3 ont perdu la leur. 3 sauveteurs de la SNSM. Ils ont péri dans le chavirage de leur bateau au Sable d'Olonne en pleine tempête Miguel. Les 4 autres marins à bord de la Vedette ont eu la vie sauve après avoir regagné la plage à la nage. Comme un rappel cruel des risques que prennent chaque jour ces anges gardiens des mers. Émotion immense d'abord de la station balnéaire et de son maire Yannick Moreau.
La ville des Sables est sous le choc. On a perdu aujourd'hui 3 marins bénévoles, volontaires, qui ont payé de leur vie cet acte d'engagement bénévole. C'est d'une tristesse absolue, c'est un drame pour nous. On a du mal à comprendre comment des bateaux peuvent prendre la mer par des conditions pareilles. La mer a été démontée.
Voilà le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau. 7 hommes à bord du bateau, 3 morts et le propriétaire du bateau porté disparu. Marion Fersing, vous êtes à France Bleu, Loire-Océan. Sait-on précisément ce soir ce qui s'est passé?
Oui, d'abord c'est un petit bateau de pêche qui a déclenché sa balise de détresse en expliquant qu'il allait essayer de rentrer au port des Sables d'Olonne pour se mettre à l'abri. Des débris de ce bateau ont été retrouvés, un radeau de survie également, mais il était vide et le pêcheur est donc toujours disparu. La vedette de la SNSM est partie à son secours avec 7 sauveteurs à bord, mais elle a chaviré et elle est allée s'échouer sur les rochers au bout de la plage. 4 des sauveteurs ont réussi à nager jusqu'au bord, mais 3 ont perdu la vie, dont 2 qui se sont retrouvés coincés dans la vedette qui s'est retournée.
Alors c'est un bilan très lourd, mais qui pose un certain nombre de questions, Marion.
Ouais, déjà, comment un bateau de pêche a pu prendre la mer dans des conditions pareilles? Cette question, c'est le maire des Sables d'Olonne, Yannick Moreau, qui la pose. La mer était démontée avec des creux de 6 mètres au moment du naufrage. L'autre question, c'est comment la vedette de la SNSM a pu se retrouver en difficulté? Ces canottes tout-temps, comme on les appelle, sont censées être insubmersibles et autoredressables. C'est-à-dire que si une vague les retourne, ils se remettent comme il faut. Là, apparemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et selon les informations que France Bleu, leur océan, a pu recueillir, la vedette de la SNSM aurait eu une panne de moteur ce matin. Elle aurait ensuite très vite dérivé vers la côte. Et là, il n'y avait plus rien à faire, même pour d'excellents sauveteurs très expérimentés comme ceux des Sables. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était une vieille vedette construite en 1986. La SNSM des Sables d'Olonne en a une plus récente, mais elle est en maintenance actuellement.
Marion Fersing à France Bleu, Loire-Océan. Hommage unanime à ces héros des mers. La SNSM, c'est une famille de 8000 bénévoles. Hommage d'abord du président de la République, Emmanuel Macron, salue des sauveteurs animés par l'esprit de solidarité des gens de mer. Condoléances également du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, des pompiers de Paris ou encore de la gendarmerie nationale. Miguel a donc soufflé fort sur la côte ouest de la France. Circulation des trains TER interrompue entre La Rochelle et Bordeaux, Royan, Niort et Poitiers, une bonne partie de la journée. 65 000 foyers sont privés d'électricité. Là aussi, cela sonne comme une injustice criante, un scandale alimentaire touchant les plus démunis. La répression des fraudes vient de découvrir que des steaks hachés fournis à des associations étaient en fait des agglomérats de gras, de peau, d'amidon et de soja. Une tromperie dénoncée par la DGCCRF. Ces faux steaks, car la loi exige qu'il n'y ait que du muscle de bœuf dans un vrai steak haché, ces faux steaks ont été distribués à la Croix-Rouge, aux banques alimentaires, aux Restos du Cœur ou encore au Secours Populaire où l'on avait déjà des doutes. Les les bénéficiaires se plaignaient du goût. Dans la Vienne, 800 kilos de viande sont mis en quarantaine dans le frigo de l'entrepôt. Nicolas Xuereb, le responsable départemental, nous a fait entrer.
Là, vous pouvez voir des différences cachées. Donc, on n'a pas sorti des cartons. Mais nous, on s'est rendu compte depuis quelque temps qu'on avait des formes bizarres. Ils se tordaient, la glace, de la glace dedans. Et on avait quelques-uns qui sont un peu rouges, blancs. La couleur n'était pas du tout correspondante des steaks hachés. Et l'odeur aussi n'était pas du tout la bonne, quoi. Dès les premières distributions alimentaires, les personnes aidées, et même nous, on s'est rendu compte que la couleur, l'aspect et l'odeur n'étaient pas du tout normales pour des steaks hachés, quoi.
Certains ont quand même mangé.
Voilà, on a mangé, ils ont mangé dès les premières distributions alimentaires. Après, on a arrêté tout de suite. On a fait une alerte. Et l'alerte a mis en quarantaine tous les steaks hachés du Secours Populaire de France. Et on est écœuré, parce que déjà, bon, on est là pour aider les personnes en précarité. Ils ont pas grand-chose. Et en plus, on leur fait de la M, faut pas dire le mot. Ça nous dépasse.
InterBev, l'interprofession élevage et viande, porte plainte pour sa part contre X. Ce sera le rendez-vous judiciaire de l'an prochain, le procès de Charlie Hebdo, des attaques à Montrouge et à l'Hypercacher. Les audiences se tiendront du 20 avril au 3 juillet 2020. 14 personnes vont comparaître devant une cour d'assises spéciale, soupçonnées d'avoir aidé les frères Kouachi et Amedi Koulibaly dans leur raid meurtrier qui ont fait en tout 17 victimes. Le rendez-vous politique du jour, c'était à Matignon, le séminaire des nouveaux eurodéputés avec le Premier ministre et une partie du gouvernement. Seule une quarantaine de parlementaires sur les 74 élus pour la France le 26 mai dernier ont répondu à l'invitation. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise ont boycotté. La tête de liste Rassemblement National, Jordan Bardella, fort de sa première place au scrutin, a lui quitté le séminaire au bout d'une heure. Un amendement surprise voté dans les dernières minutes de l'examen du projet de loi santé au Sénat. Un amendement de la socialiste Laurence Rossignol pour allonger de 2 semaines les délais pour un avortement. Il porte de 12 à 14 semaines le délai pour interrompre une grossesse. Le vote solennel de la loi a lieu mardi. Entre députés et sénateurs, ensuite tenteront de se mettre d'accord sur une version commune du texte.
Il est 18h07 sur France Inter. Amélie Perrier, la suite du journal avec l'actualité à l'étranger. Au Royaume-Uni, les adieux de Theresa May.
La chef du gouvernement quitte aujourd'hui la tête du Parti conservateur. Elle ouvre ainsi officiellement le processus pour sa succession chez les Tories et au gouvernement. Lui, il est en lice et la voie se libère pour Boris Johnson, l'ex-ministre des Affaires étrangères, poursuivi pour mensonge pendant la campagne sur le Brexit. Il obtient finalement le rejet des accusations par la justice. L'Allemagne, elle juge aujourd'hui un couple de djihadistes accusés d'avoir préparé un attentat inédit, un attentat chimique, une bombe biologique à la ricine. Leur but à ces djihadistes était de faire le maximum de victimes. La presse parle d'une charge qui aurait pu tuer jusqu'à 100 morts d'un coup, le récit de notre correspondant David Philippot.
Les deux accusés se taisent, mais leurs avocats parlent pour eux. Leurs clients démentent toute planification d'un attentat. Yasmine, l'Allemande convertie à l'islam, comparée au procès sans son voile habituel. Son mari tunisien prétend avoir eu besoin des graines de ricin pour soigner sa jambe malade, des graines qu'il a commandées par milliers sur Internet, ce qui avait attiré l'attention des services secrets américains. Lorsque les policiers pénètrent dans leur appartement de Cologne il y a un an, ils découvrent des piles, des câbles reliés à des ampoules, des billes de métal, de la poudre extraite de feux d'artifice qu'il est allé acheter en Pologne et surtout de la ricine. 1 gramme de cette substance très toxique peut suffire à tuer 2800 personnes. 80 mg sont retrouvés sur place. Un hamster a servi de cobaye, exposé à la substance pour l'expérience. Ce couple, qui avait prêté allégeance au groupe État islamique et qui avait tenté par 2 fois de rejoindre la Syrie, risque jusqu'à 15 ans de prison. Berlin, David Philippot pour France Inter.
L'Algérie manifeste encore pour le 16e vendredi de suite. Pourtant, l'élection présidentielle rejetée en bloc par les protestataires a bien été annulée. Mais le pouvoir n'a pas abandonné le projet d'un scrutin à très court terme.
Et ce soir, Amélie, la France est évidemment derrière ses bleus.
Ouverture à Paris de la Coupe du Monde féminine de foot. 1 mois de compétition, 24 équipes en lice. Chez les filles, les favorites sont américaines, allemandes, voire japonaises. Mais les françaises alors. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Amélie.
Déjà au Parc des Princes. Alors les Bleus de la sélectionneuse Corinne Diacre et de la capitaine Amandine Henry, il va falloir retenir ces noms. Amandine Henry d'ailleurs c'est plutôt un nom à devenir championne du monde. Mais n'allons pas trop vite, ces Bleus-là, est-ce qu'elles ont leur chance cette année Cédric ?
Oui, elles font partie hein, des nations favorites, c'est françaises, même si elles manquent de vécu international. Elles n'ont pas réussi, hein, les Françaises, à confirmer la belle quatrième place qu'elles avaient obtenue lors de la Coupe du Monde 2011 en Allemagne. Elles ont été sorties derrière à chaque fois en quart de finale des compétitions internationales auxquelles elles ont participé. Mais la France fait partie des nations favorites parce que il y a une nouvelle génération aujourd'hui et l'alliage entre les cadres de l'équipe que sont Wendy Renard, Jenny Le Sommer ou encore Amandine Henry, vous en parliez. Et puis les jeunes qui sont arrivés, des jeunes comme Delphine Cascarino ou Gridge Mbok, eh bien, cet alliage donne une allure intéressante à cette équipe de France qui sera en plus portée par le public français. Et on sait que sur l'ensemble de la compétition, c'est un réel avantage pour l'équipe de France de Corinne Diacre.
Merci beaucoup Cédric Guillou. Ça commence donc ce soir à 21h au Parc des Princes à Paris, France, Corée du Sud. Et puis le portrait des 23 bleus est à découvrir sur notre site franceinter.fr. Une grande journée décidément pour les femmes dans le foot. La FFF a choisi d'annoncer aujourd'hui la nomination de la première arbitre en Ligue 1. Stéphanie Frappard, francilienne de 35 ans, tenait le sifflet jusque-là en Ligue 2. Du ballon à la petite balle jaune, le trajet n'est pas long, hein, du Parc des Princes à Roland-Garros pour les demi-finales disputées sous la tempête parisienne. Fabrice Abgral, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va commencer d'abord par le duel de géants, Nadal contre Federer, un duel qui a tourné court, hein.
Bah, qui a tourné court pour Roger Federer, mais bon, la qualification de Rafael Nadal, elle était attendue et il s'est brillamment qualifié l'Espagnol, en effet, puisque Rafael Nadal s'est imposé en 3-7, 6-3, 6-4, 6-2 à la tournée court parce qu'on espérait beaucoup plus de spectacle, en effet, beaucoup plus de combativité de la part de Roger Federer, mais le Suisse est tombé sur beaucoup, mais alors vraiment beaucoup trop fort aujourd'hui, puisque Rafael Nadal a véritablement dominé les débats. Alors il a fait jeu égal hein, pendant un set et demi, Roger Federer, avant que Rafael Nadal ne mette la machine en route. Et une fois que la machine était lancée, eh bien Roger Federer n'a strictement rien pu faire. Rafael Nadal, trop puissant, trop agressif. Mais il mettait beaucoup trop d'intensité dans chaque frappe de balle pour que Roger Federer puisse véritablement rivaliser. Résultat, Roger Federer est éliminé. Rafael Nadal, lui, disputera sa 12e finale à Roland-Garros. Alors ce sera soit contre Dominic Thiem, soit contre Novak Djokovic. Pour l'instant, un set partout entre les deux joueurs. Mais le match est interrompu à cause de la pluie.
Effectivement, il fait mauvais à Roland-Garros. Merci beaucoup Fabrice Sabgral. Alors avant de passer à notre prescription culturelle du vendredi soir, que les fans de séries d'espionnage se réjouissent, le Bureau des Légendes revient, le tournage de la saison 5 a débuté avec une star à la réalisation pour les deux derniers épisodes, Jacques Audiard. C'est une première dans le monde des séries pour le réalisateur d'Un Prophète et de Dipane. Et notre conseil du vendredi soir, donc, c'est un festival art rock à Saint-Brieuc en Bretagne, un rendez-vous à taille humaine, mais avec l'une des plus belles affiches de l'été, Angèle, L'Homme Pâle, Charlotte Gainsbourg, Jeanne Adède, Sébastien ou encore The Good, The Bad and The Queen. 100% associatif et indépendant, c'est le coup de cœur de Mathieu Culeron.
Art Rock est peut-être l'une des programmations les plus excitantes des festivals d'été pour ce qui est de la musique, mais le festival de Saint-Brieuc est aussi une exposition artistique au sens large. Alice Boinet est programmatrice du festival.
C'est vrai que depuis 83, c'est un festival pluridisciplinaire. Ça va de la musique à l'art plastique, en passant par l'art numérique, le théâtre, la danse, l'art de rue.
Cette année, le supergroupe The Good, The Bad and The Queen est le temps fort de la programmation, fruit d'une fidélité au cours du temps.
C'est vrai qu'on a construit une histoire au bout de ces 36 ans d'existence du Festival à Rock, notamment avec certains membres comme Tony Allen qu'on avait accueilli en 2003 et Damon Albarn qu'on avait accueilli avec Blur en 90. Donc c'est vrai qu'ils sont assez fidèles finalement à un festival.
The Good, The Bad and The Queen qui reviennent avec un live très politique, Damon Albarn, le chanteur qui se voit même en chanteur visionnaire.
Quand les gens viennent nous voir, ils voient un groupe avec seulement deux albums sur une période de 20 ans. C'est inhabituel et d'une certaine manière, les choses que l'on pressentait sur le premier album sont les choses que nous vivons aujourd'hui.
Art Rock, un festival malin qui sait se distinguer avec finesse avant l'apparition des festivals mastodontes du mois de juillet.
La voix de Damon Albarn dans son groupe The Good, The Bad and The Queen en concert ce soir, donc à 23h, c'est au Festival Art Rock jusqu'à dimanche à Saint-Brieuc en
Merci
Bretagne.
Merci beaucoup Amélie Perrier pour ce journal. Dans un instant, le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Temps agité.
Avec des averses sur un grand quart nord-ouest encore ce soir, toujours 10 départements en vigilance orange jusqu'à 19h pour des vents violents liés à Miguel, jusqu'à 100-110 km à l'heure attendu, 120 sur les côtes. Ailleurs, on a souvent 70 à 90 km à l'heure, parfois même 100 à 110 sur les départements en vigilance jaune. Mais tout ça va tout de même s'atténuer au fil de la soirée en partant des départements les plus à l'ouest.
Et demain, ce sera un petit peu plus clément.
Avec des éclaircies, entre le midi toulousain, Rhône-Alpes, la Méditerranée, plein soleil, juste une ondée le matin sur le sud de la Corse. Sur le nord-ouest, la région parisienne et au nord de la Seine, là, plus de nuages, quelques averses. Ça n'empêchera pas des éclaircies bien appréciables. Et puis pour les températures, 16 degrés à Brest, 19 à Paris, 22 à Mulhouse, à Bordeaux, 24 à Lyon et 30 à Toulon.
Merci beaucoup. Élodie Calac de Météo France.